écoutes Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Radio Fréquence Paris Pluriel.
Tous les jeudis à 20h30.
Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle émission de l'équipe des Radieuses sur Zoom Écologie. Ce soir, on vous propose une émission patchwork et collective sur l'actualité des luttes antinucléaires et leurs enjeux.
Et ce matin, Louis de Raguenel, vous nous dites qu'Emmanuel Macron va rouvrir le dossier de l'atome. C'est une information Europe 1.
Absolument. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas s'exprimer avant la réalisation d'études approfondies sur le troisième réacteur, l'EPR de la centrale de Flamanville. Et donc, pour ne pas se renier, le président a cherché une parade. Et quoi de plus séduisant pour lui que des SMR, c'est-à-dire des mini-centrales nucléaires moins contraignantes, moins gênante, plus acceptable.
Investir dans des technologies inabouties, voilà donc le plan de notre très cher président. Coup de com' à 6 mois des présidentielles ou véritable projet, quoi qu'il en soit, cela devrait plutôt avoir tendance à renforcer les convictions des militantes et militants antinucléaires. En ce mois d'octobre, elles étaient nombreuses et nombreux à se mobiliser aux quatre coins de la France pour protester de diverses manières contre le nucléaire et ses mille facettes. Manifester à Nancy, penser et s'informer aux rencontres Arrêt du nucléaire à Paris, construire et agir en Normandie. Ces dernières semaines, si vous vouliez vous opposer au nucléaire, vous aviez le choix. Passage en revue grâce à une contribution sonore qui nous est parvenue de l'Est de la France. La Normandie, c'est aussi La Hague et Flamanville. L'équipe de Mayday, une émission diffusée sur Radio Canu à Lyon, nous emmène sur les falaises du Cotentin pour y évoquer les enjeux du nucléaire au son de la cornemuse. On ne le dira jamais assez, impossible de penser la production de l'énergie nucléaire sans prendre en compte les déchets que cela engendre. Une balade sonore Made in Mayday au camp des Rayonnantes, qui s'est tenue cet été en Meuse contre le projet Cigéo, nous le rappelle. Une radieuse vous promènera ensuite à la manifestation du budget dans l'Ain. Cette fois, c'est le maintien des vieilles centrales nucléaires et le renouvellement de la filière qui cristallise l'ire des opposants et opposantes. La danse et les paillettes y étaient au rendez-vous malgré la pluie battante. Lutter, c'est aussi créer et imaginer. On finira cette émission par une fiction sonore qui nous fera voyager jusqu'en 2039 à la rencontre des vestiges de notre civilisation nucléaire. Très bonne écoute à toutes et à tous.
Du 1er au 3 octobre a eu lieu à Metz la manifestation Vandebuurkatnom. Il s'agit d'un mix entre plusieurs dynamiques. Ainsi, c'était à la fois la seconde édition de la manifestation contre CGO Vandebuur qui avait eu lieu en 2019 à Nancy et de la quatrième édition de la fête atomique à Metz, auxquelles se sont greffés les antinucléaires allemands et luxembourgeois qui sont en lutte contre la centrale nucléaire de Katnom. Voici le texte explicatif. Soyons tous et toutes unis contre le nucléaire et son monde. À l'heure où l'État français s'entête dans le nucléaire en évoquant la possibilité de construire 6 nouveaux EPR, à l'heure où il s'entête à choisir la pire solution pour ne pas avoir à gérer les déchets les plus dangereux issus de cette filière, c'est-à-dire leur enfouissement en profondeur à Bure, à l'heure où la Belgique souhaite elle aussi enfuir ses déchets près de la frontière, à l'heure où les centrales nucléaires détournent des millions de litres d'eau pour leur propre fonctionnement alors que les canicules et les sécheresses se multiplient dans le monde, à l'heure où de plus en plus de pays européens, Allemagne, Écosse, Danemark, prouvent qu'il est aisé de se passer de cette énergie, plusieurs dizaines d'associations et de collectifs de France, d'Allemagne, du Luxembourg et de Belgique organisent un grand week-end d'informations sur le sujet. Et parce que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, on y parlera d'environnement au sens large, mais aussi de différentes thématiques sociales. C'était le texte de présentation du week-end. Ainsi, sur la place de la République à Metz, une des places emblématiques de Metz, il y a eu durant le week-end des concerts, des conférences, des stands d'associations antinucléaires et écologistes, et de la bonne bouffe aussi.
On est là.
Une manifestation en centre-ville était prévue et déclarée le samedi après-midi. Elle a été interdite par la préfecture en raison de la présence d'une autre manifestation contre le pass sanitaire et en raison de troubles possibles à l'ordre public. Qu'à cela ne tienne, les militants antinucléaires ont choisi de se greffer à la manif contre le pass sanitaire. Bon, malheureusement, il faut noter que l'extrême droite et même les royalistes étaient présents dans cette manifestation plutôt au relent complotiste anti-vaccin. Le discours antinucléaire et contre le pass sanitaire a été en fait très minoritaire. C'était assez compliqué. Alors qu'une partie du cortège a réussi à repousser l'extrême droite et les royalistes en fin de cortège, ces derniers se sont réintégrés en tête de cortège, protégés par de nombreux manifestants naïfs ou plus ou moins pas vraiment naïfs. Bon, une partie du cortège est partie en manifestation sauvage et joyeuse où crier « Liberté » a fait vraiment sens. Malheureusement, sur le chemin du retour, juste avant de revenir sur la place de la République, d'où est partie la manifestation, le cortège s'est fait nasser et plusieurs personnes se sont fait amender pour participation à une manifestation non autorisée. Si cette manifestation a laissé plusieurs personnes dubitatives, le constat partagé est qu'il ne faut pas laisser la rue à l'extrême droite. Du 8 au 10 octobre, au lycée Autogéré à Paris, a eu lieu les rencontres du collectif Arrêt du nucléaire, dont les objectifs sont les suivants, je cite, favoriser les échanges entre des personnes d'âge et d'horizons divers, élèves du lycée autogéré, militants contre CGO, contre le réchauffement climatique et des militants antinucléaires. Réfléchir aux actions communes, élaborer collectivement des stratégies pour arrêter le nucléaire et partager les connaissances sur les questions du nucléaire. Il y aura un retour sur ces journées d'études le mois prochain. Du 9 au 17 octobre ont eu lieu également à la Grange de Montabeau, en Normandie, il y a une semaine de chantier autour de l'électricité.
La Grange de Montabeau, c'est un lieu autogéré situé dans le Cotentin, en Normandie. Il voit le jour en 2012 dans la continuité des actions menées contre le projet de la ligne très haute tension qui a finalement abouti et qui relie actuellement le Cotentin nucléarisé et le Maine. Nucléarisé parce qu'on y trouve à la fois une centrale nucléaire, une usine de retraitement des déchets radioactifs et un projet d'EPR qui n'en finit plus d'essayer d'être construit. Reportage de l'équipe de Mayday, diffusé le 6 octobre sur Radio Canu.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se situe là aujourd'hui précisément?
Là, on est à la pointe de la Hague. On a un panorama magnifique, vu sur la mer, vu sur les Landes. C'est la beauté de la Hague, la beauté du paysage qu'on trouve dans le Cotentin. Ce qu'on peut voir, c'est moins joli effectivement, puisque planté dans le décor de la Hague, c'est un peu moins joli. C'est la centrale EDF de Flamanville que l'on voit ici. Après, vous avez la côte avec des villes comme Vauville. Et puis après, on remonte et puis on va vers le nez de Jobourg. Et on aperçoit aussi également ici une grande usine qui est l'usine Orano, l'usine de retraitement des déchets nucléaires, quoi, qui fait partie du paysage du Cotentin. C'est vraiment une énorme usine. Et donc, ils retraitent les déchets nucléaires. Le nucléaire a été utilisé dans les centrales et donc n'est plus bon, donc c'est recyclé. C'est fait par cette usine-là. Et ça ne retraite pas que les déchets français, ça traite aussi les déchets étrangers. C'est une usine, ça fait depuis beaucoup d'années qu'elle est là. Donc oui, c'est important. C'est un vecteur important d'emploi. Ouais.
Est-ce que les gens ils se baignent sur les plages là?
Ah oui. Ah oui. Oui, il n'y a aucun problème, oui. Il n'y a pas de rejet, je dirais, directement au bord de la mer, quoi. S'il y a des rejets, ils se font vraiment au large, de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque, quoi. Et encore, tout ça, bien sûr, c'est traité, c'est contrôlé, hein.
Et donc là, à l'autre bout du cap, vous me parlez de cette installation d'EDF, c'est une centrale nucléaire, c'est ça?
Voilà, ça c'est la centrale nucléaire d'EDF. Donc là, on fournit l'électricité. On fabrique l'électricité, on la fournit, contrairement à l'autre centrale où on retraite les déchets des centrales finalement. C'est une centrale qui est déjà ancienne. C'est là-bas qu'on est en train de construire l'EPR. Ce sont les nouvelles centrales nucléaires. qui auront des capacités de production décuplées par rapport aux centrales classiques que l'on a. Okay. C'est l'EPR de Flamanville qui construisent à côté de l'ancienne centrale. Je pense qu'à l'issue, une fois qu'elle sera opérationnelle, l'autre centrale sera démantelée. Quoi.
Et cette EPR, ça fait un moment donc qu'ils le construisent du coup ?
Oui, oui, oui. Bon, il y a eu effectivement des soucis de fabrication et tout ça, mais bon, elle n'est toujours pas en service. Quoi. Non, non, ça devrait plus tarder maintenant, je pense. Après, bon, c'est vrai que je ne sais pas si les gens apprécient beaucoup d'avoir des centrales comme ça. Normalement, il n'y a pas de risque. On a toujours, je dirais, peur de, quand même du nucléaire. Hein. Le nucléaire fait peur. Donc, voilà. On est à côté quand même d'un point qu'on appelle les pierres Pouclées, qui est un domaine archéologique assez intéressant. Ici, moi je viens ici, c'est pour m'isoler un peu des habitations, pour profiter du paysage et pouvoir jouer de mon instrument, qui est la cornemuse, qui est un instrument qui est puissant. Et donc, il vaut mieux éviter d'embêter le voisinage. Ah, moi je suis retraité, voilà.
Très bien, eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez bien nous jouer un petit morceau ? Même si vous m'avez dit que...
Ben là, effectivement, elle n'est pas très, très bien accordée. Donc, moi, je veux bien essayer de vous jouer un petit morceau, mais bon, après, voilà. Je garantis rien.
Le territoire de la pointe de la Hague, c'est un peu comme ce morceau de cornemuse. Ça pourrait être juste magnifique, mais il y a un petit truc qui déconne. Comme vient de l'expliquer ce monsieur que j'ai trouvé seul sur un cap de cette pointe du Cotentin en Normandie, dans le département de la Manche, nous sommes ici sur un territoire hautement nucléarisé. Deux réacteurs nucléaires construits à Flamanville en bord de mer à la fin des années 80, et un nouveau, l'EPR, construit par Areva depuis 2007, juste à côté. Areva, le maître d'œuvre d'EDF, devait livrer l'EPR de Flamanville en 2012. Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, le chantier n'est toujours pas terminé. Plusieurs sérieux problèmes techniques l'ont considérablement retardé et son coût de construction, d'abord estimé à 3 milliards d'euros, dépasse déjà les 10 milliards. À peine 10 km des réacteurs de Flamanville se trouve le site de l'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague. C'est l'entreprise Orano qui l'exploite pour l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Jusqu'au milieu des années 80, les déchets qui sortaient de l'usine étaient stockés dans des bidons, directement jetés dans la mer, depuis des bateaux. Depuis, une convention internationale a interdit de jeter les bidons. Alors, l'industriel en charge de la gestion des déchets a fait construire un pipeline, un gros tuyau, qui part de l'usine et qui permet de déverser directement les déchets au large. Malin ! La gestion de ces déchets est dite par dilution. Plutôt que de les confiner à un endroit, on les dilue dans l'eau. Ici, dans la Manche, là où se situe l'un des plus importants courants marins du monde. Lors des lâchers, qui sont année après année plus importants, ce n'est pas simplement la mer qui est souillée, mais aussi l'air, où l'on a mesuré dans l'atmosphère une radioactivité des milliers de fois supérieure à la normale. Plus de 10 km plus loin, Cherbourg. C'est là où sont construits les sous-marins nucléaires français. Vous savez ce que l'Australie avait promis d'acheter au gouvernement français, préférant finalement les acheter aux États-Unis. C'est donc ça le Cap de la Hague, un territoire hautement nucléarisé qui n'en finit pas de fuir de tous les côtés.
De l'autre côté de la France, le camp des Rayonnantes s'est tenu cet été. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans Zoom Écologie. L'équipe de Mayday en a ramené une balade sonore et un récit des actions qui s'y sont déroulées.
Pendant ces vacances, certaines d'entre nous sont donc allées prendre leur dose de radioactivité sur le littoral, pendant que d'autres sont allées voir ce qu'il se passait du côté de la Meuse. Et oui, les vacances du futur, c'est dans le nord-est que ça se passe. Déjà, parce qu'on adore les vaches, ensuite parce qu'il y a Cigéo, un super projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, mais surtout parce que du coup, il s'y organise une lutte anti-nucléaire. Cet été, l'événement qui a fait venir pas moins de 1000 personnes des quatre coins de la France, d'Allemagne et d'Angleterre, c'est le camp des Rayonnantes qui s'est tenu du 16 au 26 août. Au programme de ces réjouissances, divers ateliers pour en apprendre plus sur les luttes antinucléaires et notamment sur les manières de s'opposer à CIGEO, participer à des chantiers avec le collectif des semeuses qui cherchent à développer l'autonomie alimentaire, s'informer sur l'accaparement des terres, sur les enjeux de la cybersécurité, sur le colonialisme énergétique ou encore sur le rapport aux médias. Partons à la rencontre de notre guide pour une petite visite du camp.
Là, c'est l'ancienne gare de Luméville. Donc, c'est une gare qui était utilisée pour transporter des marchandises, qui n'est plus utilisée depuis des années, qui était achetée par des gens. Et finalement, c'est devenu un lieu de lutte il n'y a pas trop longtemps, puisque cette gare est du coup sur un tracé de rail, et ce tracé de rail va être réutilisé par l'ANDRA pour transporter des déchets radioactifs.
Maïdé.
Salut, moi c'est Alix, bienvenue aux Rayonnantes. Viens, on va faire un petit tour.
Promenade.
Devant nous, on a un vaisselier avec une éolienne qui nous permet de tirer l'eau du puits. Et un peu la zone de bricolage où les gens font leur table, etc. en autogestion. À gauche, il y a la tente médic qui permet de gérer un peu les bobos du quotidien, les gens un peu malades. Ouais, ils serviront aussi du coup pour l'action, pour pouvoir soigner les plus gros bobos du coup. À gauche, il y a la boulangerie où il y a du pain qui est fait tous les jours. La cantine là-bas, donc il y a en autogestion avec aussi des gens qui cadrent un peu plus et qui connaissent mieux comment gérer une cantine pour faire à manger pour beaucoup beaucoup de personnes. Mais nous, on va aller à droite vers le grand chapiteau et les ateliers. Il y a beaucoup de tentes quand même. Ouais, ici on voit beaucoup de choses, énormément de barnums, d'endroits pour faire ses propres ateliers en autogestion, mais aussi un endroit où il y a possibilité de faire de l'artivisme, donc faire un petit peu des trucs artistiques et tout. Et notamment préparer des jolies choses pour l'action. Un grand chapiteau où il y a des projections, des spectacles, des ateliers, des discussions. Plein de petits chapiteaux pour faire la même chose en plus petit. Et voilà. Le contexte de la lutte, c'est que globalement, à la fois on est à un moment où il y a un peu une reprise de la vie sur zone, où il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées, notamment une des dynamiques queer assez chouettes. Donc des personnes qui sont pas cisgenres ou pas hétéros, qui ont aussi participé à faire entrer d'autres cercles de lutte dans le coin. Et en même temps, il y a cet enjeu qui arrive en ce moment, qui est la DUP, donc la déclaration d'utilité publique du projet CIGEO. La DUP, c'est le fait que l'ANDRA devra exproprier des gens pour pouvoir avoir ses terrains, etc. Pour pouvoir avoir le droit de défricher, pour avoir le droit de creuser, pour pouvoir construire sa voie ferrée. Donc, elle a besoin de déclarer l'utilité publique du projet, et pour ça...
4 minutes 2 secondes.
Il va falloir que ce soit accepté par l'État. Et donc en fait c'est un peu des micmacs entre gens de l'État plus ou moins. Mais c'est aussi un moment clé où ils vont être obligés de faire des consultations publiques. Et même si on ne croit pas vraiment à ces consultations publiques et en leur pertinence, ça va être un moment où il va y avoir possibilité en tout cas de ralentir leur démarche si on ne peut pas les arrêter parce que les voies légales sont un peu bougées vu que c'est un peu l'État qui veut le projet et lui qui contrôle si on le fait ou pas. Du coup forcément c'est un peu biaisé. Donc ça veut dire qu'il va y avoir besoin de monde et que si en plus la DUP est acceptée, la lutte légale du coup elle sera plus possible et il s'agira de passer à des occupations et notamment par exemple à celle de la gare puisqu'ils devront exproprier la gare pour construire leur voie ferrée.
Qui apparaît dans mon champ de vision avec des jambes nues, on croirait une tenue dessous. C'est sexy. Ça va? Ah merde, c'est vrai.
Et là on arrive où?
Du coup, sur la droite, là, on a l'espace écoute. Sur un camp, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de relations interpersonnelles, des gens qui se croisent, qui ne sont pas vus depuis longtemps, etc. C'est énormément d'émotions. Prendre soin de soi, c'est prendre en considération ses émotions, c'est-à-dire qu'on n'est pas des machines et lutter, c'est vivre. On a besoin de ses émotions pour avancer et que si tout le monde est en dépression, en fait, on ne pourra rien faire. Chez nous, c'est un peu une volonté de que ce soit plus seulement les personnes qui le font habituellement, c'est-à-dire souvent des personnes queer ou des meufs qui gèrent en fait ces trucs de faire attention des autres et qu'en fait ce soit une vraie tâche visibilisée, que tout le monde puisse s'impliquer dedans, que tout le monde puisse se former. On a pensé à essayer d'inclure des personnes un peu neurodivergentes, c'est-à-dire qui ont des manières de fonctionner, qui sont différentes de la norme, notamment dans leur manière de penser ou de relationner avec les autres. Mais ça fait partie d'un truc plus large, en fait, ce qu'on appelait l'équipe Cocon, donc de co-construction du camp, donc avec des collectifs qui luttaient sur différents plans. Donc il y a un espace de rage qui a été créé, c'est-à-dire un espace qui permet de se défouler avec des choses à déchirer, pour taper dedans, etc. Il y a des espaces pour s'isoler, parce qu'en fait... Pour des personnes, c'est hyper évident d'être à un endroit où il y a plein de personnes avec qui relationner, et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus dur. Il y a des brassards pour ne pas avoir d'interaction avec les autres personnes. Du coup, sur le validisme, on essaie de faire des choses. Et je pense que c'est aussi important de reconnaître les limites de notre camp, et notamment sur l'attention portée au Covid, où en fait notre protocole sanitaire n'est pas du tout satisfaisant à plein d'égards, et ce qui fait qu'il n'est pas du tout inclusif pour plein de personnes qui ont des systèmes immunitaires différents de la norme, et qui font qu'en fait ils ne peuvent pas venir sur ce genre d'événement. Et on essaiera de prendre ça en compte pour la suite, quoi. Donc là, il y a le camping. Donc ça, c'est le camping mixte. Donc c'est un camping où tout le monde peut dormir. Et de l'autre côté, il y a un camping mint. Donc c'est en mixité choisie sans maxis. Donc mint pour meuf, intersexe, non-binaire et trans. Par rapport aux personnes à mobilité réduite, on a essayé de penser à ces choses-là. Après, on est sur un terrain déjà très peu accessible, du fait qu'il y a des quais à escalader, de la boue qui glisse, etc. On a essayé de faire au mieux, mais c'est pas tout à fait satisfaisant.
Il est un peu dans tous les sens, le site, quand même. Moi, je me suis perdu plusieurs fois la première fois que je suis arrivé.
Le site internet ou le site...
Le site de la gare.
Oui, effectivement, c'est un peu dans tous les sens. Après, c'est un peu à l'image de la manière dont on vit, peut-être. Où, bah, en fait, y a plein de choses qui se créent, qu'il faut faire cohabiter, etc. Et c'est un tissu vivant de choses qui s'organisent en parallèle, etc.
Bah merci, je vais aller manger une tartine, moi.
Ça roule. Bah bon appétit.
Au milieu de la semaine, pendant le week-end des 21 et 22 août, c'était l'appel à action. C'est le samedi 21, plus précisément, que les participantes ont pu faire une petite sortie dans les villages et la campagne alentour. Ils et elles se sont organisés en 5 groupes. 4 cortèges et un groupe resté au camp. Cette stratégie, encore jamais expérimentée à Bure, vient d'Allemagne, et notamment du mouvement de désobéissance civile Ende Gelände, qui milite contre l'extraction de charbon. Un point qui se brandit et se déploie en 5 fingers, en 5 groupes aux intentions et façons de faire différentes. Le cortège cirque, sans stress, est parti en tracteur, phénix volant, roulette et nez de clown, en brandissant des banderoles contre la DUP, la déclaration d'utilité publique, et contre le nucléaire colonial. Le cortège violet, bloqué par la police malgré une tentative de passage de ligne par la danse et les percussions, qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. Dans le bloc doré, toutes sortes de déplacements collectifs ont été mis en pratique pour éviter la police et atteindre la cible. Un dépôt appartenant à l'ANRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, avec succès. La banderole ANRA dégage, vive le bricolage, ouvrait la voie au cortège vert sur l'ancienne ligne de chemin de fer. Des panneaux de signalisation sont tombés, des rails ont été dévissés et un rail a été tordu à l'aide d'un cric. Ces rails sont nécessaires à la rénovation de la voie ferrée et devraient être utilisés pour le passage de la machine qui servirait à les remplacer. Le cortège vert a également pu atteindre la cible. Les grilles du dépôt sont tombées, il a été repeint de plusieurs côtés. Les vitres éclatées, la voiture du vigile retournée, un fumigène lancé à l'intérieur. Chacun, chacune a pu exprimer avec créativité sa haine de l'ANRA et sa joie d'être là.
Non mais attends. Pourquoi c'est ce dépôt qui a été ciblé ?
En fait, c'est une ancienne usine de meubles, Meuse Omnistyle, qui emploie plus de 1000 personnes dans les années 90. Les scieries et les petites entreprises de menuiserie voient leur activité chuter, leur compétitivité sur un marché mondialisé baisser. Elle coule peu à peu. Meuse Omnistyle est rachetée par un groupe industriel qui la mène en liquidation judiciaire en 2011. Des centaines de personnes perdent leur emploi. Ni une ni deux, l'ANRA met le grappin sur le bâtiment pour stocker des machines et des carottes, des échantillons issus des forages géologiques. Mais on n'est pas dupe. C'est en réalité une prise stratégique. Située en bordure de la voie ferrée censée être rénovée, l'idée est, si le projet CIGEO aboutit, de faire de ce dépôt une véritable plateforme ferroviaire par laquelle transiteraient les matériaux du chantier ainsi que les déchets nucléaires.
Et Mouche, tu nous lis un extrait du tract qui a été distribué pendant l'action ? Vite fait.
Pour nous, c'est un enjeu symbolique et stratégique que de se retrouver ici aujourd'hui. Ce lieu porte à la fois la mémoire d'une histoire passée, industrielle et sociale, celle des savoir-faire ouvriers et artisans, de la filière bois qui a permis à beaucoup de gens de rester vivre là, quand l'agriculture intensive vidait les campagnes, est la marque d'un projet mortifère qui s'accommode parfaitement de la désertification de cette région. Il y a 20 ans, des opposants-opposantes renversaient les grilles des premières plateformes de l'Andra à Bure. Aujourd'hui, le labo est devenu une forteresse imprenable. Il ne fait aucun doute qu'il en adviendra de même de l'endroit où nous sommes aujourd'hui et de toutes les terres que ce projet engloutira. C'est maintenant qu'il nous faut agir, tant que nous avons encore des prises.
Radio Fréquence Paris Pluriel.
Radio Fréquence Paris Pluriel.
Tous les jeudis à 20h30.
Le 3 octobre, plus de 700 personnes ont manifesté dans l'Ain contre la prolongation des vieux réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, le renouvellement de la filière nucléaire et pour le développement des énergies renouvelables. Alors certes, elles étaient loin des 15 à 20 000 personnes de la deuxième manifestation contre la centrale le 10 juillet 1971. Mais les opposants et opposantes présentaient une diversité d'âge et de style notable. Au milieu des traditionnelles banderoles de Greenpeace ou du réseau Sortir du Nucléaire, une costumerie mobile et un stand de maquillage invitaient les participantes et participants à se parer de couleurs pour la parade. Alors que les slogans de la France insoumise donnaient la cadence à la tête de cortège, la queue de cortège, elle, ondulait au rythme de l'électro diffusé par un sound system depuis un camion. La relève est là et elle danse sur les ruines du vieux monde.
Moi, c'est brin d'herbe. Et là, on est sous un arbre pour nous abriter de la pluie. Et on est à côté de Saint-Vulbas. C'est la ville la plus proche de la centrale du Bugey. Et voilà, c'est le point de départ de la manifestation. Donc, il y a plein de gens qui s'activent. Il y a des petits barnums de toutes les couleurs. On est installé dans un endroit où il y a des arbres. Là, je vois un barnum presse, un barnum petit-déj, un barnum... Greenpeace, un barnum SDN, un barnum un peu, on dirait, CGO et Radiaction. Voilà, il y a plein de choses qui se passent sous nos yeux. Et là, il y a plein de gens qui sont en train de se préparer. On voit sous un petit barnum qu'il y a plein de déguisements et les gens qui prennent des masques et tout. Toutes les générations prennent des masques. Enfin, en tout cas, j'ai vu au moins deux générations prendre des masques.
On est en train de faire du maquillage corporel. Donc on est à côté d'une table avec une magnifique tissu en velours. Et on a beaucoup de maquillage à notre disposition, des paillettes, etc. Et l'idée, c'est de se peindre, ajouter des couleurs, de la fantaisie, de la joie, de la vie. Vu que l'ami a un masque sur le visage, je vais faire un maquillage sur le reste du corps. Donc les bras, la nuque, etc. Et donc avec du doré, etc. Et là, je suis partie dans la thématique constellation, aurore boréale. L'idée, c'est, je crois que c'est un peu l'envie de sortir des manifs qu'on pourrait qualifier d'un peu plan-plan, qui sont sympathiques elles aussi, hein, mais du coup, de rajouter de la musique, des couleurs, de la danse.
Des paillettes,
des confettis, voilà.
Et du fun, du coup, de s'amuser.
Et du coup, par exemple, on a une costumerie mobile de très grande qualité. Des banderoles, plein de choses. Et du coup, voilà, l'idée, c'est que toutes les personnes qui viennent dans ce bloc sont invitées à se déguiser, ce qui est aussi pas mal pour pas être reconnu. Voilà.
Et il y a des super DJ qui vont nous faire de la musique. On va pouvoir danser sur de la disco et de la techno. Et du coup, ça fait partie de la partie on s'amuse, on s'éclate et on est là dans la joie. Les gens regardent le maquillage, les personnes vont à la costumerie, prennent des masques, prennent des perruques. Et tout le monde se prépare en fait. Et c'est aussi chouette d'avoir ce moment de préparation pour dire allez, on va pas marcher dans la rue, on va être présente en couleur avec nos revendications dans la rue. Pendant les manifestations, en particulier les manifestations anti-nucléaires, il y a quand même une forte présence policière avec la police qui cherche à repérer des gens, savoir qui est là et faire potentiellement pour aller jusqu'à du fichage. Et du coup, être masqué, ça permet de pas être si facilement reconnu par la police et donc de pouvoir être plus tranquille, de pas être fiché, de pouvoir vivre plus librement. Qui se passe, voilà. Et aussi parce qu'il peut y avoir des personnes pour qui ce serait par exemple dangereux d'être reconnu ici, qui ne veulent absolument pas être reconnus, et du coup, en soutien à ces personnes-là, tous on est masqué, et donc personne n'est reconnaissable. Il n'y a pas une personne qui doit se masquer.
Allez, on va y aller ?
Il y a de la joie.
Ouais !
Il y a de la joie. Sans ça, il y a de la joie. Avec toi, ça y est, on y croit. Il y a de la joie. Soit de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie.
Bonjour, alors je suis Marie, je travaille au réseau Sortir du Nucléaire. Et actuellement, nous sommes à quelques centaines de mètres de la centrale nucléaire du Bugey, du coup, qui est aujourd'hui la doyenne des centrales françaises. Ces réacteurs ont 42 et 43 ans. Et nous manifestons contre la prolongation des réacteurs. La manifestation, elle a 4 objets, donc la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans, leur non-remplacement par des EPR, parce que le site du Bugey fait partie des sites cibles qui pourront accueillir potentiellement une paire d'EPR très prochainement. Et la fin de ICEDA. ICEDA, c'est une installation de stockage et d'entreposage de déchets du nucléaire. Et oui, pour dire oui aux énergies renouvelables, au remplacement tout ça par des énergies renouvelables. Alors, on est un regroupement d'une trentaine d'associations, Rhône-Alpine, Bourguignonne et même Suisse, en fait, notamment la coordination Stop Bugey, qui est une coordination d'un collectif de plusieurs dizaines d'associations locales du Bugey anti-nucléaire et des associations du coup de Bourgogne et quelques associations suisses, parce que la Suisse en fait elle pourrait être impactée si jamais, notamment Genève, si jamais il y avait un accident nucléaire au Bugey, et c'est pour ça que les liens sont assez forts entre les Suisses et les militants du Bugey. Et il y a également Greenpeace en groupe national et le réseau Sortir du Nucléaire. La première manifestation anti-nucléaire s'est effectivement passée il y a 50 ans sur le site du Bugey. C'est pas le plus beau des anniversaires à fêter parce que la centrale est toujours là, mais c'est quand même beau que en fait, les militants se réunissent toujours et qu'il y ait en plus de nouveaux militants qui prennent le relais pour rejoindre le mouvement 50 ans plus tard. C'est une belle passation. Alors là, c'est un petit garçon qui tape sur une grosse canette sur laquelle on peut voir un petit logo radioactif et qui s'entraîne visiblement. Il a une grande carrière de batteur devant lui. Donc, parce qu'il y a aussi des enfants, il y a plein de jeunes, il y a pas mal de... Finalement, c'est assez diversifié comme manif, c'est cool, ça va être beau à voir.
On se met en mouvement.
Donc venez, drapeau, banderole, maquillage, masque, tout ce que vous voulez. Et on s'oriente tous là-bas, en bout de route, en direction de la centrale.
de la manif derrière un camion qui passe de la musique disco sous la pluie parce que rien n'arrête le mouvement anti-nucléaire aujourd'hui. Voilà, on est sur une route nationale qui donne tout droit sur la centrale du Bugey. Et bah, c'est à la fois funeste et fantastique. Voilà, ça me plaît beaucoup.
De sortir du nucléaire Bugey. Alors les vieux réacteurs, bah, c'est le vieillissement des cuves, puisqu'elles étaient normalement prévues au maximum pour durer 40 ans. Donc elles ont quelques fissures. On a quand même sur les 4 réacteurs 274 irrégularités de construction liées à Creusot-Forge. Donc ça, c'était avant 1975 pour ce qui est les cuves, un peu plus tard pour les générateurs de vapeur. Mais ça veut dire que l'industrie nucléaire fraude depuis plus de 50 ans. Et donc, c'est des irrégularités, c'est-à-dire que ça ne correspond pas aux normes. Et ça veut dire qu'en cas d'incident, de choc thermique brusque, il y a des pièces qui peuvent se casser et on peut aller vers un accident grave. Et le réacteur Bugey 3 en totalise à lui seul 97. Les simulations qui ont été faites par l'Institut Biosphère à Genève pour les réacteurs suisses et le réacteur de Bugey, puisque c'est le plus près de la Suisse du Sud, montrent que même toute l'Europe peut être contaminée par un accident grave à Bugey. Selon les vents, ça peut aussi partir jusqu'à Bordeaux et plus loin.
Si tu sais, t'es nucléaire, t'es nucléaire, Macron. Aucune hésitation de construction. Et putain de peur.
Face à un lobby nucléaire qui est vraiment très très puissant et qui fait un gros pataquès actuellement en disant que le nucléaire est bon pour le climat, ce qui est totalement faux, parce que le nucléaire, déjà, c'est des rejets de chaleur permanents, puisqu'en fait, pour un tiers d'électricité produite, il y a deux tiers de chaleur qui vont tout de suite dans l'environnement. Alors, à l'échelle de quelques centrales, ça impacte que le climat local, mais si on développait vraiment le nucléaire à l'échelle mondiale en masse, ça impacterait aussi le climat et ça augmenterait les températures. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Et puis sur les gaz à effet de serre, il n'y a pas d'analyse de cycle de vie fiable pour le nucléaire, puisque les 12 grammes par kilowattheure qui sont annoncés par le GIEC sont en fait une médiane qui va de 3,7 à 110 grammes par kilowattheure, et même avant ça allait jusqu'à 200 et quelques. Ça a été réduit un peu la marge, mais on voit qu'il y a des gros gros écarts selon ce qu'on compte, et on ne compte pas tout. Et en général, tous les problèmes des déchets à très longue durée de vie, comme ceux qu'on veut mettre à Bure, ce n'est pas pris en compte dans les analyses de cycle de vie, mais ça va bien impacter, parce qu'il faut beaucoup de béton, parce qu'il faut, pour faire du béton, il faut des rejets de gaz à effet de serre. Et même la construction qui prévoit là, de 6 réacteurs EPR, en fait, on dit que le réchauffement climatique se joue dans les 10 années qui viennent. Mais en fait, les réacteurs, on va les construire dans les 10 années qui viennent. Donc les 12 grammes qu'on nous annonce, qui sont une moyenne sur les 60 années de fonctionnement, sont complètement illusoires parce que pendant ces 10 années, on va impacter énormément le climat avec le béton, avec l'acier, avec tout ça. Et en fait, on va contribuer à réchauffer le climat alors qu'il faudrait le diminuer. Il y aura probablement des recours juridiques puisqu'en fait, localement, ils sont en train de modifier les règles d'urbanisme pour permettre d'accueillir les nouveaux EPR. Et ça, ben, on se prépare à éventuellement, s'il y a des failles dans le dossier, à faire des recours juridiques. Et puis, oui, il va y avoir des actions comme ça. Et puis, on va continuer aussi à mobiliser.
Si ça pète un jour au soleil, on pète tout ça.
commune le discours que les près de 50 organisations qui appellent à cette manifestation ont rédigé à seulement 30 km de Lyon, au bord du Rhône. Nous y sommes. Voici un boulet qui pèse lourd de risques à l'est de cette agglomération de 1,3 million habitants de Lyon. Et c'est de toute la région attachée à ce boulet que vous êtes venus. Cette région qui représente 5 millions d'habitants à 100 km à la ronde.
Les temps de fermer ces vieux réacteurs. Planifier dès aujourd'hui leur fermeture. Nous avons obtenu le soutien de Naoto Kan, qui fut le premier ministre japonais qui dut gérer la catastrophe nucléaire de Fukushima. Il considère comme insensé le risque de réacteurs nucléaires anciens si proches de grandes villes. C'est pourquoi les élus de la région, le maire de Grenoble et les élus verts de la métropole lyonnaise appellent à leur arrêt avant 2024. Quant à la ville, ils ont déposé un nouveau recours contre la décision de l'autorité de sûreté nucléaire française. Nous refusons aussi leur remplacement à terme par deux EPR, comme au Tricastin. Les EPR du Bugey, eux, resteraient soumis au même risque du site. Un peu moins de séisme au Tricastin, mais toujours le risque de chute d'avions de ligne accidentelles ou terroristes avec l'aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry à 15 km. Et toujours les risques de rupture de barrages en amont sur le Rhône, et particulièrement sur l'Ain, celui de Vouglan, en mauvais état. Ces EPR resteraient impactés par le réchauffement climatique qu'ils sont censés combattre, au bord d'un fleuve, comme au Bugey ou au Tricastin, avec une température de l'eau qui augmente et un niveau qui baissera, limitant ainsi le refroidissement des réacteurs.
Le collectif anti-nucléaire Ouest tient à rappeler son opposition à l'EPR de Flamanville en construction dans la Manche. Il continue toujours de réclamer l'abandon du chantier. Si Flamanville est abandonné, un autre projet d'EPR aura du mal à démarrer. S'opposer à Flamanville, c'est s'opposer au projet d'EPR de Saint-Vulbas, du Tricastin, de Penly et d'ailleurs. L'EPR est en fait inexploitable, dangereux et horriblement coûteux. Vouloir construire de nouveaux EPR est une plaisanterie, alors qu'EDF est incapable d'en construire un. On va partir pour 100 ans avec des boulets nucléaires, même neufs, et ces réacteurs, qu'ils soient prolongés ou qu'ils soient nouveaux, continueront à grossir la masse des déchets radioactifs pour des millénaires. Et la solution sécurisée pour les traiter n'est toujours pas trouvée, ni en France, ni ailleurs. Aussi, tant que la production de déchets radioactifs ne sera pas réduite, nous nous opposerons au fonctionnement d'ICEDA, ici, au Bugey.
À tous les jeunes et moins jeunes qui luttent pour limiter le réchauffement climatique et affirment très justement, c'est le système qu'il faut changer et pas le climat. Il faut rappeler combien le nucléaire, indissolublement, civil et militaire, est au cœur même du système. Centralisme, étatisme, capitalisme, productivisme, gaspilleur, et par le fait non démocratique et exploiteur des ressources du pays, de pays pauvres, pour vendre du confort chez nous. On est bien loin de l'indépendance énergétique autoproclamée.
Ça suffit, 50 ans, ça suffit.
50 ans, ça suffit. 50 ans, ça suffit. 50 ans, ça suffit. 50 ans, ça suffit.
Arrivé sur place, on était donc dans une espèce de prairie juste en face des centrales. Il y a une immense, vraiment très 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 grande banderole qui a été déployée pour dire stop aux EPR quoi. Et donc suite à ça, on est rentré et sous la pluie. et c'était non, c'était assez beau. Je pense que tout le monde était content, contente. Il y avait toujours le camion Sono qui mettait beaucoup d'ambiance et des chorales qui chantaient, des gens qui jouaient sur des percussions. Donc non, c'était quand même assez joyeux, moi, je trouvais. Enfin, il y a vraiment eu le temps de que les gens échangent, discutent, se préparent. Enfin, c'était quand même beaucoup de joie aussi. Donc je pense que ça a compensé le fait que la fin de la manif était...
était vraiment marquée par l'eau. Donc oui, non, c'était une belle journée et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va être utilisé par les associations, les médias, etc. quoi.
À la fin de la manifestation, rendez-vous était donné aux manifestantes et manifestants pour se retrouver en Meuse les 20 et 23 octobre pour dénoncer la mascarade de l'enquête publique. Une enquête publique censée sonder la population dans le but de déclarer ou non le projet d'enfouissement de déchets radioactifs Cigéo d'utilité publique. Vous retrouverez plus d'informations sur onnestpasdupes.noblogs.org.
Madame, Monsieur, bonsoir. La France est-elle en train de vivre son premier accident nucléaire? La question se pose après la succession d'incidents la nuit dernière dans le réacteur numéro 1 de la centrale.
Tous les réacteurs sont désormais touchés. Les taux de radioactivité s'élèvent dangereusement, ce qui pousse la population à fuir les zones potentiellement contaminées.
Monoculture à perte de vue, le vertige me prend, une terre cultivée, vidée, labourée, éventrée, tout le vivant contrôlé, sous-sol bientôt irradié, alors après le vertige, vient ma rage. J'ai rien à proposer, juste envie de tout péter, agriculture, éolien, nucléaire, l'NTHT, c'est la civilisation que je veux voir voler en éclats, pas simplement ce lumineux labo du Andra.
Fier d'être un gasseur de champ avec mes cernes, rageur d'aimants, mangeur de cailloux assumés, me demande jamais d'être clément. Depuis que vous avez débarqué et embarqué toutes mes copaines, j'ai envie de vous embrasser avec un pavé au goût de ma haine. Le flou coule dans mes veines et commence à embraser ma colère, fait bouillonner ma déterre, envie de vous mettre la misère. Je suis pas d'un arrêté pour pouvoir nous arrêter, méchamment révolté, jamais vous ne casserez notre champ.
C'est pour les casseuses, les hackers, les squatteurs des champs qui essayent de penser droit même dans des vapeurs étranges. Pour la chaleur de l'échange, toute le monde que l'on a fui pour les soi-disant profiteurs qui caillent. Y'a moins 10 dans la nuit. Les endociles face au GM. La peur au bine ne nous arrête pas. On leur glacera les pieds, on les fera reculer. Car si on est ensemble, on a assez de bras. Les connexions se font de la ZAD à la ZIRA. Avec la force du nombre, c'est le vieux monde qu'on enfouira.
Des casseurs, des gens qui jouent au mateur. Des gens qui s'opposent aux désastres ne sont rien d'autre que des gendarmes. Chasseurs du Maine au volant sans moteur, ils sont trop lents. Ils se mettent à dos les paysans qui tirent la sonnette d'alarme. En drap, marchent sur des œufs. La vie des votes répressifs pour qu'ils les laissent faire sans qu'ils ouvrent les œufs à bure. Mandron les cris à haute voix. Le nucléaire en continu, on le démantèlera.
Une fourmée bleue et mes blâmes, barrez-vous sur le côté. Vos battes pliées, s'il vous plaît. Vous avez votre permis de fuir. Je vois que vous êtes pas en règle, là, votre assurance a dépassé ma rate. Je suis mon couplet, vous savez. Gare au larbin des plaines qui déplaît à vos gardiens nobles. Les renégats font des dégâts et que les dégoûts gronds défendent les farces de l'ordre.
S'il y a donc 3 mois cette semaine, où en est-on là-bas?
Il y a 5 ans, jour pour jour, le monde découvrait avec stupéfaction les images du...
C'est un état des lieux sur les conséquences sanitaires de cette explosion. 20 ans après...
Ce qui arrive à la Terre, arrive aux fils et aux filles de la Terre. Tchernobyl, Windscale, Nagasaki, Hiroshima.
L'impensable contradiction liée aux déchets nucléaires.
Soulène
est bien là. Les générations futures devraient avoir l'éternelle connaissance de leur nocivité.
Oslodui.
Et la génération actuelle, ignorée jusqu'à l'oubli total.
Hanford, Cadarache, Valduc, Saclay, Soulaine, Saint-Laurent-des-Eaux, Rouyères-le-Châtel, Fresmalville, La Hague, Three Mile Island.
Sonore avec des bouts de réalité dedans.
Il est défendu de sortir les nuits qui viennent.
Oui, nous approchons de la grande fête du Karen Anne de Nomnel.
Nous devons rester dans nos abris.
Nous ne devons pas montrer notre existence.
Et dans ce cas, au tournom. Le père Nomnel viendra.
Tel Césium, notre grand ennemi ineffable. On ne le voit pas, on ne le sent pas.
Et cette fois, nous le verrons.
Oui, nous irons au tournom.
En français, le mot décontaminé appliqué à la radioactivité est tendancieux. Selon le dictionnaire historique de la langue française, le préfixe « dé » indique qu'une action s'effectue en sens inverse ou est annulée. On peut ainsi dérouler, défriser, déplier, mais ce n'est sans doute pas un hasard si les verbes « détuer », « démassacrer » ou « déviolé » n'existent pas. Certaines actions sont irrémédiables. On ne peut pas les inverser ou les annuler. La pollution radioactive est de celle-là.
Le moment est arrivé. Tu es prête ?
Oui, j'ai pris des réserves pour 5 nuits de voyage.
Le jour commence et tout le monde se repose. C'est le moment de partir.
Oui, j'ai déjà hâte de voir les tours de Nome et le Père Nomel.
En lançant le mot d'ordre de décontamination, les autorités japonaises veulent croire et laisser croire qu'il est possible, au prix de nombreux efforts inégalés, de venir à bout de la radioactivité comme on vient à bout d'une épidémie. Réflexe optimiste de désinfection, hérité des heures de gloire de la médecine moderne.
Tu les imagines comment, toi, les tournomes ?
Elles sont au nombre de 4. L'une d'elles est éventrée et laisse couler l'Ura, qui nous fait vivre, nous le peuple des Iras.
Et tu l'imagines comment, toi, le père Nomnel ?
Il est grand et il porte des vêtements violets, comme le sang des Iras, et ses mains ont 5 doigts. Il vient une fois par an, au moment où les nuits sont les plus longues au tournom, afin de vérifier le taux du rat, et il vérifie que tout va bien.
Dans les cas des radiations, aucun désinfectant n'a jamais été mis en évidence. Il n'existe à ce jour pas de moyen technique de tuer la radioactivité comme on tue un germe. On ne peut que la déplacer. Si vous parvenez à lessiver une surface radioactive, vous obtenez de l'eau radioactive. Si vous frottez un objet radioactif, vous obtenez un chiffon radioactif. Brûler une plante radioactive disperse une fumée radioactive dans l'atmosphère et ainsi de suite.
Selon la description donnée par la légende, on devrait arriver demain.
J'ai hâte de voir les tournomes, le cœur de notre cœur, le souffle de notre souffle.
Oui. C'est en ces lieux que le sang des Iras est né.
Oh, mais reposons-nous maintenant. Le jour porte conseil.
Suivant les instructions du gouvernement japonais, la municipalité de Fukushima a publié un manuel d'autodécontamination à l'usage de ses résidents. Première étape, effeuillez tous les arbres de votre jardin, déracinez buissons, plantes et gazon, ramassez pierres et cailloux. Seconde étape, pelletez la terre de surface à hauteur de 5-6 cm sur toute la surface du terrain. Enfin, mettez tout ceci dans des sacs en plastique et enterrez le tout sous une grande bâche, dans votre jardin. En gros, enterrez votre jardin dans votre jardin.
Là, je les vois, les tournomes. Elles dépassent des arbres.
Elles sont belles. On dirait des passerelles vers le ciel.
Le plus gros reste à faire. Il nous faut nous cacher pour voir le père Nomnel. Il viendra du ciel par hélicoprène. C'est ce que dit la légende.
Oui. Et à ce moment-là, nous pourrons lui parler. Bon, trouvons une cachette pour passer le jour.
Les faits sont là. Nous sommes aussi impuissants face à la pollution radioactive que ne l'étaient les populations du Moyen-Âge confrontées à une épidémie de peste. Notre sort est certainement moins enviable, dans la mesure où les conséquences de nos épidémies nucléaires ne disparaîtront jamais. Mais nous avons l'avantage d'en connaître très précisément les causes. Nous savons ainsi qu'il suffit de continuer à laisser cette industrie fonctionner pour pouvoir prédire avec certitude la survenue d'une nouvelle dévastation, et vice-versa.
Ah, tu as entendu ?
Oui, tu crois que c'est...
Le Père Nomnel ?
Le voilà ! Il arrive par l'escalier.
Mais son costume n'est pas violet.
Il est gris.
On ne voit pas sa tête.
Elle est recouverte d'un masque.
Il vient vers nous.
Hélico à Noël, me recevez-vous? Où en êtes-vous?
Noël à l'hélico. Noël à l'hélico, je suis sur zone. Je commence à effectuer les mesures annuelles de radioactivité. Je me trouve... Attendez.
Que se passe-t-il? Répondez!
Un reste de repas? Je ne comprends pas.
Allons lui parler. C'est le moment.
Quels seront ces archéologues qui découvriront les vestiges de la civilisation nucléaire?
Communiqué de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion du désastre radioactif. L'équipe scientifique qui s'occupait des mesures annuelles de décontamination ce matin mardi 20 décembre 2039 a été attaquée par un grand nombre d'individus irradiés qui auraient survécu à la catastrophe. Alors que l'on croyait la zone complètement ravagée par le drame qui a eu lieu il y a 30 ans. Les autopsies des corps ont révélé un système sanguin modifié de couleur violette, une vision qui leur permettrait de vivre la nuit et des membres ne comprenant que 3 doigts. L'armée a été appelée pour sécuriser la zone et neutraliser les individus irradiés qui présentaient un risque de contamination.
Les femmes et les hommes de l'ANDRA conçoivent et mettent en œuvre dès aujourd'hui les solutions et les stockages les plus sûrs et les plus responsables pour protéger tant l'homme que l'environnement du danger que représentent les déchets radioactifs. L'ANDRA les prend en charge et les met en sécurité pour les générations futures.
Bonne fin de soirée et à jeudi prochain pour un autre épisode de Zoom Écologie.
Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif.